Ding dong.
Ding dong.
La bande passante.
La bande passante.
Sandrine Straram, Alain Pilot.
Parce que pour lui, il était un artisan de la musique, que la samba chanson a toujours été blanche de forme et de rime, nègre, bien nègre dans son cœur, parce qu'il a écrit que ceux pour qui tout va à l'envers n'ont jamais le cœur abîmé, résigné. Mais lui, son cœur vient de s'arrêter, mais ni sa voix, ni ses mots, ni ses images, ni sa musique ne cesseront de nous entourer, parce qu'il nous a quittés le 28 décembre dernier et qu'il devait passer par la bande ce soir pour le demi-siècle de son label Sarava, parce qu'il se disait toujours disponible. Pour au moins toutes ces raisons, nous souhaitions évoquer ce grand monsieur qui était Pierre Barou, parti à 82 ans. Nos deux grands témoins sont Laurent Valero et Dominique Cravic. Bonsoir.
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 Entre autres musiciens, producteurs d'une émission sur France Musique, passionné par l'univers de Barou pour le premier, et musicologue, créateur du groupe Les Primitifs du Futur et accompagnateur de Pierre Barou pour le second. Merci d'autant plus d'être là puisque vous revenez tout juste des obsèques de Pierre Barou. Pour le cinéaste Claude Lelouch, il était un funambule de la vie qui marche sur un fil et essaye de ne pas tomber. Pour vous ?
Il y a beaucoup de ça. Vraiment, c'est quelqu'un qui avait une espèce d'âme qui était restée très très fraîche, etc. Et qui prenait des risques et qui était toujours à l'écoute de ce qui pouvait arriver, quoi.
Laurent Valero.
Oui, je pense que c'est un peu comme ce que vient de dire Dominique, c'est-à-dire qu'il s'était fixé dès son plus jeune âge de se promener jusqu'à 30 ans. En fait, il a fait que se promener jusqu'à sa mort. Et comme il disait très souvent, il a récolté toute sa vie ce qu'il a semé, et ce qu'il a semé, c'est énorme.
Auteur, compositeur, interprète, acteur, réalisateur, éditeur, Barou et ses héritiers, Barou et le cinéma, Barou et sa passion pour le monde, l'Afrique, le Brésil, le Japon, son flair pour dénicher les talents de la chanson. Nous allons tenter en 47 minutes de comprendre qui il était, ce qu'il nous laisse avec vous, mais aussi avec Bertrand Belin et Séverin. Soyez les bienvenus dans votre maison et sa musique cinématographique et romantique à tous les étages.
Il y a beaucoup de gens qui, soit de façon flatteuse, soit de façon péjorative, traitent mon parcours d'éclectique. Mais pour moi, il n'y a aucun éclectique. Pour moi, c'est simpliste comme tout. C'est pas par hasard si, quand j'avais 14-15 ans, tout d'un coup, la chanson m'est parvenue par un film. Hein. Et d'ailleurs, il y a une cohérence, parce qu'il y a beaucoup de mes chansons qui sont construites selon un découpage totalement cinématographique. Mais ensuite, j'ai eu l'occasion de vivre des aventures théâtrales, de faire des films. Mais si vous voulez, pour moi, c'est simpliste parce que on est tous confrontés à quelques obsessions. Et pour moi, depuis toujours, ça a été de plus ou moins témoigner du monde qui m'entoure et de faire circuler quelques émotions avec des images et des mots. Avec une ambition, c'est que lorsque les mots sont prononcés, qu'ils évoquent des images.
Avant toi, il existait bien quand même, avec ses problèmes, le verbe aimer. Avant toi, il me parlait de victoire, peut-être illusoire, le verbe aimer. Avant toi, l'inconscience gâchait à moitié dans ma vie l'attrait de mon insolence et de ma liberté. Après toi, il existera quand même, avec ses problèmes, le verbe aimer. Après toi, il parlera de défaite, à l'amour offerte, le verbe aimer. Après toi, l'amertume prendra la moitié de mon cœur, l'autre étant pour la coutume d'aimer sans aimer. D'après toi, tout au moins s'il faut en croire, oh, c'est toute une histoire, le verbe aimer. D'après toi, il doit, paraît-il, nous faire oublier la terre, le verbe aimer. D'après toi, tu l'affirmes, l'amour est entier. D'après toi, il ne peut pas être infirme, j'en avais douté. Avec toi, pourtant, quand je dis je t'aime, c'est un autre thème, le verbe aimer. Avec toi, je dois bien le reconnaître, il semble renaître, le verbe aimer. Avec toi, j'abandonne. sont entiers à ce verbe qui paraît, il s'abonne à l'éternité. À ce verbe qui paraît, il s'abonne à l'éternité.
Un passage de Un homme et une femme, thème de Francis Lai pour la bande originale du film de Claude Lelouch qui obtiendra la Palme d'Or à Cannes en 66. Pierre Barou, à qui l'on doit le fameux Shabada Bada, qui se résumait ensuite dans En sol majeur de Yasmine Chouaki sur RFI, et encore lui interprétant ici le verbe aimer. Élie Barou, dit Pierre Barou, né en 1934 dans la banlieue parisienne, issu d'une famille juive séfarade de parents immigrés qui venaient de Turquie. Dès l'âge de 14 ans, il écrit ses premières chansons. Comment entrez-vous l'un et l'autre dans l'univers musical de Barou, Laurent Valero et Dominique Ravic?
En fait, je suis rentré de façon... pas accidentelle, mais enfin, bon, j'étais avec mon ami Claire Elzière, qui chante et qui a fait d'ailleurs des albums chez Pierre Barou. Et il y a un festival à La Morvien, donc c'est son domaine, son hameau, au Moulin à La Morvien, en Vendée. Et... je suis allé là-bas pour accompagner des chanteuses, parce que le pianiste n'était pas là. Donc c'est là que j'ai vraiment rencontré Pierre, disons il y a peut-être une quinzaine d'années. Avant on s'était croisés, mais sans plus, juste serrer la main. Donc c'est arrivé comme ça, et puis depuis ça s'est développé. Je crois qu'il aimait bien notre famille des Primitifs du Futur, pour simplifier. Et puis il y avait toute sa famille Sarava, et je ne sais pas, il y a eu des ponts, des liens entre... et ça s'est développé... On a fait des chansons, je l'ai accompagné, il a produit des choses dont j'étais le producteur artistique, etc.
Laurent Valero.
Alors moi je l'ai connu il y a un peu plus d'une vingtaine d'années, au festival de Montauban, où il avait d'ailleurs lui-même découvert Françoise Cucheda, qui était une artiste qu'il a fait chanter sur Sarava. Et après je l'ai revu comme ça, alors je l'ai plus croisé pendant ces années que connu. Et puis on a fait connaissance au fil du temps, en se rencontrant un peu comme ça, de manière inconstante, je dirais, mais pendant un sacré nombre d'années, oui.
Il y avait, dans notre petite maison de banlieue, était collé un cinéma de quartier qui s'appelait l'Éden, qui a disparu maintenant. Et un jour, j'avais été voir les 6 jours de Paris, mes parents m'avaient dit « Pierrot, tu rentres pas après 9h du soir ». J'étais rentré, il était 8h30, j'étais un peu en avance. J'ai mis le nez au cinéma, la caissière était partie, je suis rentré, et les visiteurs du soir. Et ma vie a basculé sur 3 mots de Jacques Prévert. « Des monts et merveilles, des vents et marées, au loin déjà la mer s'est retirée ». Tout a basculé là-dessus. J'ai commencé à me cultiver dans le désordre, de Mac Orlan, Jean Renoir, Jean Vigo, et j'ai commencé à écrire tout de suite. Et donc tout a basculé, et donc c'est pas par hasard si cette vocation profonde est venue d'un film, quoi. Et j'ai commencé à écrire tout de suite, et voilà. Et je sais pas pourquoi, si c'est venu d'une lecture, j'ai décidé à l'époque, j'ai arrêté l'école, et j'ai décidé que je ne ferai plus rien que me promener jusqu'à 30 ans. Et j'ai rempli le contrat. Je me suis bien promené un peu partout et tout ça, et puis j'écrivais, voilà, et je faisais des rencontres. Sur mon tout premier passeport, quand j'étais adolescent, à la rubrique profession, j'avais marqué promeneur.
J'en connais que la chanson incommode, d'autres pour qui ce n'est rien qu'une mode, d'autres qui en profitent sans l'aimer. Moi je l'aime et j'ai parcouru cherchant ses racines, vagabonde, aujourd'hui pour trouver ses plus profondes, c'est la samba chanson qu'il faut chanter.
On s'est d'abord rencontré pour le chanteur en acoustique dans une émission de télé, et puis ensuite je lui ai proposé de partager avec moi la scène des Francofolies où il est venu hyper gentiment, sans répétition, sur scène. Et c'est un souvenir génial pour le public, je crois aussi, parce que c'est une chanson que les gens... En fait, finalement, beaucoup de gens la connaissent, cette chanson, et quand il est arrivé sur scène, qu'on l'a chantée, je pense qu'ils ont senti une sorte d'émotion. Et puis moi j'avais un respect pour toute son œuvre. Et le voir comme ça, sans répétition, parce que je l'ai appelé le matin pour lui proposer de répéter, il a absolument pas voulu répéter. Toujours dans cette envie de spontanéité. J'ai retrouvé en lui ce qui m'avait donné envie de faire de la musique quand j'étais petit, presque. Qui, lui, avait réussi à garder... cette sorte d'amour profond de la musique et de pas calculer.
Mais quel que soit le sentiment qu'elle exprime, elle est blanche de formes et de rimes.
blanche de formes et de rimes. Elle est nègre, bien nègre. Dans son cœur.
Samba Sarava par Séverin qui nous racontait sa rencontre avec Pierre Barou. Samba Sarava, une samba composée par Baden Powell, texte de Vinicius de Moraes, adaptation française signée Barou. Et puis Pierre Barou, juste avant, à propos de sa carrière qui est partie de Maude Prévert, puis de Promenade, dont une au Brésil en 1959 pour aller rencontrer Vinicius de Moraes qu'il ne croisera pas. Une décennie après, il signe un documentaire réalisé en 3 jours à Rio de Janeiro. Où découvre-t-il la musique brésilienne ?
Dominique Ravi. Je pense que la première fois, ce qu'il nous disait, c'est que c'était quand il est descendu en Portugal et que à Lisbonne, il avait écouté de la musique brésilienne.
Et surtout, il croise Sivuca. Voilà, Sivuca, l'accordéoniste d'orchestre.
Sivuca était vraiment très européen parce qu'il jouait avec des tas d'orchestres. Il a fait des disques à Londres, à Paris. C'était vraiment l'accordéoniste à la fois brésilien et puis accompagnateur des chanteurs de variété et donc le brésilien. Quoi. Donc c'était le maître étalon. Et là, il les rencontrait. Puis là, il a écouté ces musiques qu'il n'avait jamais même espéré entendre, quoi, je veux dire.
Que trouve-t-on dans ce documentaire sur la bossa ?
Alors ça, c'est un documentaire tout à fait étonnant. Pierre en était très fier d'avoir fait ce film en 3 jours, parce qu'on voit par exemple alors Pixinguinha, qui est un des maîtres du choro brésilien. Aussi, oui. Voilà, qui est un des rares moments où on le voit dans un film, donc il est là.
Je crois que c'était les seules images qui existent. Voilà. Et il était très fier du fait que même les Brésiliens n'avaient pas pensé à filmer Pixinguinha ou Donga, qui est aussi un type des années fin années 10, des années 20. Donc les gens qui jouaient le choro et puis aussi qui jouaient le jazz, parce qu'ils jouaient leur version du jazz. Et donc il l'a pris dans la fin des années 60. C'est quelqu'un qui était donc déjà très âgé, mais qui était vraiment
à
l'image, il est c'est carrément
on voit Maria Bethânia qui a 15 ans, on voit Paulinho da Viola qui est tout jeune aussi. Et voilà, et on voit Madène, Pierre à l'œuvre, c'est-à-dire que on le voit rencontrer ces gens, leur donner la parole, les filmer, et on voit c'est comme une espèce de concentré de tout ce qu'a fait Pierre toute sa vie. Comme il disait, il a souvent dit il a passé toute sa vie à récolter ce qu'il avait semé, et ça résume assez bien le parcours de Pierre Barou.
Voici une partie de ce qu'il a semé.
Tu commences à ta vie tout au bord d'un ruisseau. Tu vécus de ces bruits qui courent dans les roseaux, qui montent des chemins que filtrent les taillis, les ailes du moulin, les cloches de midi, sous les lignes d'un sourire. La chanson d'un oiseau, tu prenais du plaisir à faire des ronds dans l'eau.
Ma mère dansait dans les bars imitant Jean Harlow. Mon père lançait les poignards au cirque à Buffalo. Puis on m'a dit un jour que West et moi j'ai pédalé de New York à Los Angeles sur un vélo volé. Alors j'ai usé mes coudes à frotter les comptoirs avec une étoile d'Hollywood qui perdait la mémoire.
L'épicière italienne vendait du piment de Cayenne et le chef des pompiers jouait de la trompette à pied. Pour passer la rivière, en barque, j'étais condottiere. Avec l'herbe au lapin revenant, j'étais clandestin. Et j'avais gros au cœur lorsque la nuit dormait, tout doux câlin les pleurs, et que l'hiver bruissait. À travers les carreaux et par-dessus le mur, j'avais soif, soif, soif d'eau. Je buvais du futur. à deux pas de l'église, c'est là que nous logions, en 60 et cerises, ma grand-mère et mes lions.
Je t'aime, vaut mieux le taire, je t'aime, il faut le faire. Quand ton sol est ordi, ça vaut plus un radis. Et on se retrouve un jour en panne de mots d'amour. À feuilleter, l'argus, ma puce, à feuilleter, l'argus, ma puce.
Le chanteur Alain Leprest et l'accordéoniste Richard Galliano, Ma Puce, au début de ce florilège Sarava, François Hardy, des Ronds dans l'eau, Hollywood, David McNeil, histoire de rappeler que Barrault avait été invité à Hollywood et avait dîné avec Paul Newman, le slam de Gérard Ansaloni, 1962, mix auquel nous aurions pu ajouter Ariski Belkacem ou Jean-Roger Cossimon, auteur de Léo Ferré, entre autres, Cossimon, dont il était très fier d'avoir révélé le talent, ou encore Brigitte Fontaine et Jacques Higelin, Johnny Hallyday, avec qui Barrault avait joué au cinéma, posté une vidéo accompagnée du message « Que de bons souvenirs avec toi ». Au revoir Pierre. Quelle a été, quelle est encore la place de Pierre Barrault dans le paysage musical?
Je pense qu'il a une...
Dominique Ravic.
Il a une place, comme il a toujours eu, c'est-à-dire une place sans faire beaucoup de tapage, mais il est de plus en plus, comme s'il diffusait, il infusait dans le paysage musical. C'est-à-dire toutes les valeurs, toute sa personnalité, toute sa façon de jouer sur l'émotion, la poésie, les coups de cœur, etc. C'est quelque chose qui se répand un peu partout, quoi.
Laurent Valero ?
Oui, ça donne cette impression, c'est-à-dire, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Dominique, c'est très juste, je pense que sa place va être de plus en plus importante, et qu'en fait toute sa vie il a fait quelque chose que maintenant les gens redécouvrent comme quelque chose d'essentiel. Et malgré les aléas qu'a eu Sarava, on sait que les artistes sont arrivés, il les a découverts, ils sont partis des fois pas dans les meilleures conditions avec lui, oui. Peu importe. Mmh. Il a semé des choses qui moi me semblent être les choses essentiel et que dont on s'aperçoit, on peut dire que on a fêté les 20 ans de Sarava le 20 novembre avec un concert auquel participait Dominique, magnifique.
Et on... Les 50 ans, non
les, cinq, les 50, 50 ans, les 50 20 ans.
Et non, pas non, les mais 20 c'est ans. Bien de se rajeunir.
Ouais, c'est pas mal. Sarava a toujours 20 ans et finalement, on peut dire que les derniers jours, les derniers instants de sa vie ont été quand même assez, assez rayonnants parce qu'il a été fêté, mais fêté comme il, voilà, comme il se devait, alors que moi, je sais bien, pour faire aussi de la radio, qu'on ne passait pas tous les jours les chansons de Pierre Barrault, c'est le moins qu'on puisse dire.
Barrault d'honneur lui a été fait donc avec ce concert et cette compilation enregistrée par des chanteurs et acteurs français ou japonaises, même comme Kaimi Kari, en duo avec Albin de la Simone pour « Cet enfant que je t'avais fait ».
Cet enfant que je t'avais fait, pas le premier, mais le second. Te souviens-tu? Où l'as-tu mis? Qu'en as-tu fait? Celui dont j'aimais tant le nom. Te souviens-tu?
Offre-moi une cigarette. J'aime la forme de vos mains. Que désirez-vous? Jette mon temps jusqu'à demain. Que désirez-vous?
Cet enfant que je t'avais fait sur la compile Les 50 ans de Sarava, la belle dont s'occupe Benjamin, son fils, c'était donc Albin de la Simone et Kaimi Kari. Je signale à nos auditeurs Laurent Valero votre émission de près de 2 heures. Salut à Pierre Barrault, Sarava, le 1er janvier dernier sur France Musique, disponible toujours sur le net dans le cadre de votre rendez-vous qui s'appelait pas ce soir-là, Easy Tempo, que vous présentez normalement avec Thierry Jousse. C'est le dimanche de 18h à 20h. À suivre, juste après avoir fait le tour du monde de l'actualité en 3 minutes, Pierre Barrault vu par Bertrand Belin, l'Afrique, le Brésil de Barrault, sans oublier son côté primitif du futur. À tout de suite sur RFI dans la bande Saravante.
Vous êtes tout à fait charmant, mais ça se fait aujourd'hui. Que désirez-vous?
La bande passante.
Musique.
Sandrine Straram, Alain Pilot.
Suite de cette spéciale Pierre Barrault, toujours en compagnie de Dominique Kravic et de Laurent Valero. Rebonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Bonsoir.
Musicien de Barrault, guitariste et membre de plusieurs groupes, dont le Ukulélé Club de Paris pour le premier, et polyinstrumentiste et présentateur d'un magazine musical à France Musique pour le second.
Bonne nuit, mon vieux. Salut Johnny. Oh Johnny, excuse-moi de te dire ça, mais Magali et moi, c'est sérieux.
Vous vous aimez?
Ça te fait rire, hein?
T'es pas fou, non?
Tu sais bien que je ne suis qu'un carac.
Et alors?
Un carac qui épouse Mireille, ça s'est jamais vu.
Eh bien, ça se verra. Vous êtes bien d'accord?
Je crois que oui.
Eh bien, moi aussi.
Abruti, tu vas réveiller les vieux.
Nous poursuivons notre promenade à travers la carrière de ce chanteur, voyageur, ex-journaliste sportif et grand joueur de volleyball, cinéaste, acteur. Il était ici aux côtés de Johnny Hallyday dans D'où viens-tu Johnny en 1963. Barou qui se réjouissait d'avoir réussi à vivre à fond ses passions et dont le slogan de son label Sarava était il y a des années où l'on a envie de ne rien faire. Je rappelle qu'il devait être ce soir derrière ce micro pour le mauvais sort et c'est le mauvais sort qui en a décidé autrement. Pierre Barou serait passé par la bande à l'occasion de la publication de l'album Les 50 ans de Sarava où 14 chanteurs et comédiens reprennent une partie du catalogue Sarava. Un mot africain qui signifie le salut, la bénédiction, créé par Pierre Barou, inspiré par cette phrase de Vinicius de Moraes, la vie, c'est l'art des rencontres. Dans la bicyclette qu'il a écrite, il y a un tas de rencontres, Paulette, Firmin ou Sébastien, voire Bertrand Belin, qui s'est approprié cette chanson, qui aura bientôt 50 ans.
Elle était déjà étrangement, saillante et iconoclaste en 68, cette chanson, parce que vous vous rendez compte que cette chanson qui parle du souvenir idyllique de l'enfance, c'est comme on pourrait qualifier une bluette, bien que ce soit une bluette d'un niveau spectral, mais enfin, on était en 68, quoi. Ça veut dire par là que le monde, le rock avait déferlé sur l'ensemble des grandes villes du monde. C'était une période de secouement social très, très, très forte. Et cette chanson qui arrive avec, en imposant comme ça un regard non pas attendri, j'irais lucide aussi sur la qualité particulière du temps qu'il a de passer vite, de passer parfois trop vite. Et c'est une chanson de célébration de l'amour et d'un paysage et d'un mode de vie quotidien qui n'est pas urbain, qu'on devine comme ça, encore vécu aujourd'hui par certaines personnes. Bien sûr, on fait du vélo dans les chemins, on a le cœur qui bat très fort soudain pour une voisine ou un voisin. Et donc cette chanson, il serait une erreur de prendre pour un anachronisme, mais qui est au contraire une forme d'universalité absolument incontestable, quoi. Et cette chanson que j'ai chantée depuis longtemps, qui m'a été apprise d'ailleurs par Polo, qui était chanteur satellite, qui écrit aussi de très belles chansons, qui chantait cette chanson, c'est de lui que je l'ai apprise. Et elle m'a aussi inspiré, je n'ai pas fait que chanter cette chanson, elle m'a inspiré des chansons aussi, notamment Porto, la chanson de mon premier album, qui est un peu une forme d'hommage, en tout cas dans la forme et à la recherche de ce filtre, de cette substance étrange rapportée du passé, comme ça, je dirais que c'est le plus beau visage que la nostalgie peut avoir, se trouve dans la chanson La bicyclette.
Après cette magnifique description, nous n'avons qu'une envie, c'est de vous laisser enfourcher cette bicyclette et de monter sur votre porte-bagages. Merci Bertrand Belin.
Avec grand plaisir, et puis surtout, continuons d'écouter... bien sûr, la musique de Pierre Barou, y compris les artistes sortis sur le label Sarava. Je pense notamment à Thierry Lecoq, musicien remarquable, auteur de chansons sublimes, signé par le label Sarava il y a quelques années, qui malheureusement nous a quittés lui aussi il y a assez peu de temps. Et ça montre bien aussi que le label Sarava, jusqu'au bout, était à ce qu'il avait à faire, c'est-à-dire découvrir et promouvoir des artistes singuliers, touchants et émouvants, comme c'est le cas aussi de Thierry Lecoq.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait François, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser des ailes à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer, pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette. Faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur. à bicyclette. Et depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants à bicyclette. Quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes. Puis on se roulait dans les champs, faisant naître un bouquet, changeant de sauterelles, de papillons et de rainettes.
La bicyclette par Bertrand Belin sur une musique de Francis Lay, l'une des chansons de Pierre Barou qui viennent, disait-il, de son enfance vendéenne, une virée en vélo avec les poteaux. Sur la pochette de la compilation des 50 ans de Sarava, dessinée par Charles Berberian, on voit un blouson avec un logo Peace and Love. Il y a de l'esprit hippie chez Sarava ?
Il y a quoi ?
De l'esprit hippie chez Sarava, Dominique Ravic ?
Je pense que c'est même avant, ça a dû lui arriver avant ça, avant que les hippies soient déclarés comme des hippies californien. Je pense que c'est annonciateur de cet esprit-là, c'est sûr.
Qu'est-ce qui va faire que des artistes comme Jacques Higelin ou Brigitte Fontaine vont quitter le label à un moment ?
Oh, ça c'est simple.
Laurent Valero.
Barou a jamais, évidemment, il a créé ce label, il a donné cette liberté à des artistes, comme l'a dit Bertrand Belin dans la jolie interview qu'on a entendue. Évidemment qu'il savait bien, ces gens-là, qu'il fallait pas compter sur Sarava et sa force de frappe, combien de divisions Sarava pourra mener une carrière avec des attachés de presse et des voyages promotionnels.
Bien sûr.
Mais comme c'est Sarava, et c'est vrai que Pierre Barou était quelqu'un qui était passionné par la découverte et qui après ne s'intéressait pas forcément, comme un homme d'affaires qu'il n'était pas, aux artistes. Alors évidemment, ils sont tous partis de Sarava. Il disait d'ailleurs que sans lui, ils auraient fait la carrière qu'ils ont fait, les Areski, Higelin, Fontaine, Kendengue, tous ces gens-là. Le seul dont ils disaient être fiers, effectivement, vous l'avez cité, c'est
Jean-Roger Cossimon.
C'est Cossimon. Que sans Barou, Jean-Roger Cossimon n'aurait jamais enregistré son répertoire. Et il était très fier de ça, en disant qu'il avait illuminé comme ça les 15 dernières années de la vie de Cossimon, mais c'était vrai.
Très heureux d'avoir cet album avec tous ces.
Selon vous, qu'est-ce qui allait accrocher l'oreille de Barou, qui se surnommait le flâneur aussi, pour qu'il décide de prendre sous son aile tel ou tel artiste?
Je crois que c'est quelqu'un qui tombait amoureux assez facilement, c'est pas du tout péjoratif ce que je veux dire, et ce qui l'intéressait, c'est ce moment où il se passe quelque chose, et comme il avait une intuition très grande, je sais pas, il a entendu par exemple Alain Lepresse, il sentait qu'il y avait quelque chose qui se passait, quoi. Bon, pareil pour Claire Elzière, il est venu l'écouter, elle était avec son pianiste, moi j'étais même pas encore dans ce trio, dans cet orchestre, et il a dit, voilà, t'as 5 chansons, dès que t'en as 10, on fait un album. Donc il avait vraiment...
C'est exactement ça.
Ouais. Il prenait les choses.
Il reniflait très vite.
Voilà, mais pas comme un rapace, comme un... Voilà,
pas comme un homme d'affaires, à l'émotion.
Très élégant, à l'émotion.
À l'émotion, oui, tout à fait.
À l'époque de sa réussite avec la bande musicale pour le Louche d'un homme et une femme, il estimera être passé du statut de marginal à celui de mythe, et pourtant.
Je suis pas ni au milieu ni en marge, je supporte pas la notion de marginalité. Hein, parce que, en fait, les marginaux sont inventés par les grands médias, qu'on leur marginaux, comme on a ces bons juifs et ces bons arabes. Si vous voulez, je crois pas en la marginalité. Moi, je veux dire, à chaque fois que j'écris une chanson, je fais une pièce de théâtre, un film, que je produis quelqu'un, j'ai envie que ça parvienne au plus grand nombre. Que j'ai pas envie de me compromettre pour ça, c'est une autre histoire. Donc, il n'y a rien que je redoute plus, et Dieu sait si ça m'arrive, quand il y a des gens qui se pointent vers moi dans un bistrot en me disant oh, « tu sais, moi aussi je suis un marginal ». Je ne crois pas en la marginalité.
Pierre Barou et ses fameuses colères positives, il en avait aussi après les radios et les télés du service public dont nous faisons partie, Laurent, leur reprochant un peu d'audace, qu'en dites-vous ?
Ben, il n'avait pas tort, Pierre Barou, et on peut le dire ici à ce micro, sur RFI, c'est vrai aussi à Radio France, où très peu de gens programment finalement la musique de Pierre Barou. Je ne vais pas parler pour moi-même, évidemment, mais Pierre Barou avait des alliés à la radio. Je pense à José Arthur, Foulquier, qui était toujours là pour l'aider quand il avait quelque chose à promouvoir, et ça c'est formidable. Isabelle Dordain l'a fait, Benoît Duteur très récemment, Philippe Meyer, on a tous autant qu'on est fait, ici à RFI, bien sûr, Alain Pilot, vous-même. Voilà, il avait des alliés plus que des gens qui matraquaient. Personne n'a jamais matraqué, à part la bicyclette et un homme et une femme. Le répertoire de Pierre Barou en tant qu'auteur, il est considérable et c'est d'une immense qualité, tout le monde le sait, mais ces chansons, on ne les entend pas beaucoup plus.
Son audace était notamment de rapporter de ses voyages des musiques du monde avant l'heure. Qui de vous deux nous en parle ?
Ah bah oui, bien sûr, Dominique pourrait très très bien parler, il connaît très très bien ça, les musiques du Brésil, les musiques d'Afrique, il a été un des premiers, il n'était pas le seul. Claude Nougaro, quand il fait Locomotive d'Or en 1974, met des musiciens africains, il n'est pas le seul, Pierre Barou.
Vraiment, les Africains
mais,
sont
mais
pas
Pierre Barou fait partie de ces quelques-uns, il y a eu aussi, il y en a eu d'autres, mais il fait partie de ces quelques-uns, ils ne sont pas nombreux à effectivement inventer la world music bien avant l'heure, bien avant que ça devienne une mode ou un son ou un truc de marketing, comme il disait. Et c'est vrai qu'évidemment, la musique brésilienne, il a fait connaître des gens. Et c'est drôle parce que quand il est parti au Brésil, il pensait rencontrer Vinicius, qui était à Paris. Parce qu'il chantait des chansons de
Dolores. C'est à Paris qu'il va le rencontrer, d'ailleurs.
Il chantait des chansons de Dolores Duran dans un café. Et des gens lui disent, mais comment tu connais ça, Dolores Duran ? Il me dit, parce que j'ai appris ça au Brésil. Et lui, pensait les rencontrer. Il les rencontre à Paris. Évidemment, Vinicius, diplomate, poète, était partout dans le monde chez lui. Et il rencontre Vinicius à Paris, ce qui est invraisemblable, quoi.
La France, l'Afrique et le Brésil de Sarava.
Je suis un sauvage. Mais ils ont réussi à me faire chanter. Je suis fier d'être bourguignon. Ils sont futés tout de même. Si le curé a fermé l'œil, c'est qu'il espérait se faire pardonner. De grâce, ne lui lancez pas la première pierre. Vous en aurez besoin. Olé.
Passante sur RFI, spécial de Pierre Barou, le percussionniste brésilien Nana Vasconcelos, No Norte do Polo Sul. Au tout début de ce mix, le rap précurseur d'Alfred Panou, Benino Togolais, Je suis un sauvage, avec le Art Ensemble of Chicago, puis le saxophoniste Barney Villen et Bamako Koulikaro. Alfred Panou enregistré au pied levé avec l'Art Ensemble of Chicago, devenu disque mythique pour Pierre Barou, qui avait rencontré Panou dans un bar juste avant cet enregistrement improvisé. C'était aussi ça la ligne de conduite du label Sarava, la spontanéité.
Oui, je crois qu'on peut dire que c'était un maître mot de Pierre. Hein. On sait, Dominique, surtout, a plus joué que moi. Moi, j'ai eu la chance de jouer avec Pierre grâce à Dominique dans une carte blanche au Festival de Rochefort. Je suis très touché d'avoir eu au moins cette occasion-là une fois dans ma vie de partager la scène avec, grâce à Dominique, avec Pierre Barou. Mais c'est vrai que toi, tu pourras en parler mieux que moi. C'était quand même ces concerts. C'était pas des concerts, c'était une sorte de happening où tout pouvait se passer. Quelqu'un pouvait venir chanter. C'était pas un problème. Ça aussi, c'est finalement très très moderne. Hein. C'est pas du tout le mec qui faisait un concert avec la lumière, machin, il savait pas ce que c'est que la lumière, il s'en foutait.
Et c'est-à-dire, en fait, c'est quelque chose qui est difficile à réussir, quoi. Ce qu'il faisait, c'était vraiment... Quelqu'un parlait de funambule tout à l'heure, c'est vraiment... Je suis sur le fil, je suis en haut de la vague, et j'essaie de ne pas être atteint par la dure réalité des choses, donc je plane un peu. Et donc, on a un concert, un tour de chant qui n'a rien à voir avec rien. Et quand il est en forme, et ça lui arrive souvent, c'est carrément magique. Je veux dire, il y a un truc, les gens qui sortent d'un concert de Barou avec la banane jusqu'ici, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi?
Deux mots sur votre association musicale avec Pierre Barou, Dominique Kravic et Voix Primitive du Futur.
Oui, en fait, sur le dernier disque, dernier album des Primitives, donc, qui s'appelle Tribal Musette, qui est un disque un peu pharaonique, puisque c'était chez Universal, ils avaient encore un petit peu d'argent. Donc on est 52 sur cet album. notamment, il y avait un très beau texte de Marc-Édouard Nab, un petit extrait, il avait un très beau livre sur Django. Et donc j'ai proposé à Pierre de dire cette dernière page, et s'appelle La dernière rumba de Django. Et donc il y a toute une musique manouche, entre guillemets, autour, avec violon, guitare, etc. Et ça, c'était un aspect des Primitifs, et je pense que Pierre était... D'abord, il avait une voix, une diction incroyable, et je crois qu'il était très heureux de faire ça. Et sur scène, à chaque fois qu'on a eu l'occasion, il est venu.
Ben voici ce que ça donne.
Du désert pour laquelle son caractère n'était pas préparé. C'est d'ailleurs en marchant comme dans un désert que Django est mort. Il s'est retrouvé un jour de mai 1953 tout seul à la petite gare de Bois-le-Roi. Pas de taxi. Django décida de rentrer chez lui à pied. Quelques nuages se gonflaient d'orage au-dessus de lui. Il marcha à travers la forêt, sa veste sur l'avant-bras. Son front suait sous le soleil. Sa main lui faisait mal, comme toujours quand il faisait lourd. Les grands arbres vacillaient à son passage. Était-ce normal, tant d'étoiles en plein jour? À Samoa en nage. À la terrasse de son bistrot préféré, on le fit s'asseoir. Dans un énorme soupir flou, il commanda un café avec un nuage de lait. Son dernier geste fut de porter la tasse à son sourire. Et il s'écroula sur le guéridon. On le transporta à l'hôpital de Fontainebleau. On raconte que lorsque le médecin vint, au petit matin, constater le décès de cet homme de 43 ans, mort d'une congestion cérébrale. Il vit d'abord une drôle de main qui dépassait du drap et murmura « Django ».
Il est passé au-dessus du monde bien ouaté, tout en vapeur d'amour. Il flotte dans le ciel inquiet. Pour toujours.
La dernière rumba de Django, Les Primitifs du Futur, en 2008 sur l'album Tribal Musette du groupe de Dominique Kravik, et la participation donc de Pierre Barou qui lit un texte poétique au sujet de Django Reinhardt. Pierre Barou qui était très attaché à la France, mais son triangle amoureux était le Brésil, le Québec et le Japon. Au milieu des années 2000, il confiait vivre plus au Japon et au Québec. Pour quelles raisons, d'après vous? Déjà, il faut rappeler que, comme le faisait remarquer Le Monde en 2012, que le grand musicien japonais Ryuichi Sakamoto lui disait « Ici, on se nourrit de ton travail ». Donc pourquoi il était vraiment plus, il vivait plus au Japon qu'en France à cette époque-là?
Japon, je pense qu'il est vraiment tombé amoureux du Japon. En plus, après, il a rencontré Atsuko, ils ont fait des enfants, etc. Et quand il était au Japon, moi je l'ai rencontré plusieurs fois au Japon, je ne suis jamais allé en tournée à cause de Sarava, on avait un autre producteur, mais on se rencontrait quand il était là-bas, on se voyait comme si on se voyait à Paris, on se voyait à Tokyo. Ça fait plus riche, c'est bien. Et donc, il était sur son vélo, il comprenait quasiment pas le japonais, il disait quelques phrases, etc., avec un bon accent, mais je pense qu'il était... ailleurs, quand il était là-bas, il était ailleurs. Et en même temps, on parlait de ça souvent avec lui. Au Japon, il y a une chose qui est assez étonnante, c'est qu'on regarde les vitrines, on regarde ce qui est marqué sur les affiches, on comprend rien. On regarde les gens, ils sont vraiment très différents de vous. Mais en même temps, il y a une espèce de familiarité incroyable. Il y a une sorte de plaisir. Et je pense que ça lui a toujours plu. Puis le fait que tu peux baisser ta garde là-bas, toi, tu peux laisser ton ordinateur... sur un banc, essaye au Luxembourg, toi, si tu tiens plus de 10 secondes, lui, il pouvait laisser à Shinjuku son ordinateur et le récupérer le lendemain.
Oui, il racontait qu'il avait laissé d'ailleurs son, je ne sais plus, un ordinateur ou quelque chose dans le porte-bagages de son scooter,
au Japon,
avec les clés sur le scooter, et qu'il l'avait retrouvé.
Avec les cartes bleues et tout, donc il y a une espèce de pays de cocagne sur certains aspects. Sûr,
et puis il était aussi, moi je me souviens avoir vu chez lui des films qu'il faisait, parce qu'il tournait tout le temps avec sa petite caméra, avec ses moyens à lui, sur un Japon totalement inconnu finalement.
Tout
et il avait tellement à cœur de montrer des choses dans des îles reculées du Japon, à Hokkaido, dans des, avec des sculpteurs, des peintres, des personnages invraisemblables. Moi j'ai le souvenir comme ça chez lui, rue de l'Estrapade, d'avoir vu des films en sa compagnie pendant 2 heures, de découvrir, moi qui, contrairement à Dominique, ne connais pas du tout le Japon, et de voir comme ça, de découvrir des univers insensés auxquels il était très sensible.
Du Japon, on passe au Cambodge.
J'ai vécu un truc très 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 émouvant au Cambodge, où j'ai fait tout le Cambodge, j'étais rejoint des professeurs français qui allaient au Cambodge, dans ce pays qui a été décimé, et le propos c'était la chanson. Ça fait quelques lignes, je veux dire, on peut me faire 3 pages dans Le Monde, ou le Nouvel Obs, ou je sais pas quoi, jamais on dira des choses qui me touchent autant que ça. C'est un journal qui a été fait par les profs cambodgiens, ça s'appelle La Fête Finale. Le samedi 20 juillet 1996, tous les professeurs en formation avec France Liberté se sont rendus dans la salle du théâtre provincial de Takeo pour un concert de chansons. Le chanteur est gros et grand. Il chante très harmonieusement. Il raconte des histoires de son enfance, de ses rencontres, des divers obstacles ou événements de la vie. J'ai adoré ce chanteur parce qu'il m'a rappelé la période de mon enfance où je vivais à la campagne. Il a les mêmes souvenirs que moi, mais moi, je ne sais pas les chanter. Puis nous sommes allés à la salle de conférence de l'école régionale de pédagogie pour le banquet commun. Ensuite, nous avons dansé joyeusement, tous ensemble, au son de la musique traditionnelle khmer. Cette fête restera, selon moi, inoubliable. Voilà. Et là, bon, c'est vraiment l'effet pollen. Et la chanson est un mode d'expression, mais extraordinaire, privilégié. Et le mépris des médias en ce moment pour la chanson, c'est un truc qui me fout le vertige.
Aujourd'hui je suis ce que je suis, nous sommes qui nous sommes, et tout ça c'est la somme du pollen dont on s'est nourri.
Pierre Barou dans le magazine Quartier Libre de Maïsa Costache sur RFI, puis Le Pollen sur le disque éponyme en 1982, premier album enregistré et partagé à Tokyo avec les meilleurs musiciens et compositeurs japonais. Vous avez 20 secondes chacun parce que Barou aimait à dire au-delà du chiffre 3, je ne comprends plus rien aux chiffres. Avant de se quitter, donc, donnez-nous vos 3 titres incontournables du label Sarava.
De Pierre Baron, je dirais l'Allégresse, une chanson que j'aime énormément, musique Richard Galliano,
Le Courage d'aimer. Aussi,
Et puis Vivre, que j'ai découverte il n'y a pas longtemps, chantée par Maya Barou, une musique de Francis Lai, qui est une très très belle chanson.
J'aime bien une chanson très française qu'il a faite avec Éric Guiton, sur son quartier, sur Mouffetard.
Lily.
Lily,
c'est magnifique.
C'est à la fois du Barou et en même temps c'est du Brassens, c'est tout, quoi, c'est incroyable.
Merci infiniment Dominique Ravic et Laurent Valero.
Merci infiniment également.
Merci à Pierre Vallée. La bande, c'est aussi sur musique.rfi.fr et nous continuerons, comme il nous le conseillait dans deux de ses compositions, à aller prendre un air d'insouciance, à danser et à nous gaver de beignets, de frites et de poulet, car la vie est une foire. Bref, ça va continuer avec sa bénédiction. D'ailleurs, Barou signifie béni en hébreu dans moins d'une minute.
Tout à fait.
Le journal, salut.